9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question au quotidien. Avec vous Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Et avec un sujet, je vous le disais, devenu bête noire pour les journalistes que nous sommes, pour les politiques évidemment, pour les citoyens dans leur ensemble. Les fake news, ces fausses infos, ces rumeurs finalement qui peuvent faire ou défaire des réputations, faire perdre ou gagner des élections. Depuis quand en parle-t-on vraiment sous ce terme? Sont-elles si puissantes et dévastatrices aujourd'hui et pourquoi? C'est un thème au cœur d'un roman passionnant, roman politique d'anticipation de Michel Cotta et Robert Namias, nos invités ce matin. Ils sont là pour faire le tour de cette question si sensible jusqu'à 10h. Et puis nous parlerons ensuite, 2 ans après l'interdiction des sacs plastiques à usage unique dans les magasins, qui est loin d'être effective, de ce matériau facile, pratique, léger, bon marché, le plastique, qui hélas est l'un des plus polluants de cette planète. Comment se désintoxiquer du plastique? Quelles sont les alternatives aujourd'hui? Nos invités vous expliquent, vous avez la parole, vous pouvez réagir dès maintenant, le standard est ouvert.
Le 39-21. Vous avez aussi le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
On est ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec fake news en lettres blanches sur fond rouge et noir, Michel Cotta, Robert Namias, deux grandes voix d'Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir et de commencer quelque part un peu l'année avec vous. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Et bonjour Robert Namias.
Bonjour Wendy.
Alors d'abord je salue la grande première parce que Michel Cotta, on ne cite plus les ouvrages de François Mitterrand à Emmanuel Macron que vous avez commis. Mais alors pour le roman, c'était une première. Hein.
C'est une première, oui. Avec une joie nouvelle.
Bon,
en
votre
tout cas.
Plaisir et votre délice d'écriture.
Devient trop triste, il vaut mieux faire des romans.
C'est ce que vous vous êtes dit un peu, Robert, en vous lançant de cette aventure. À demain et bravo parce qu'il n'y a aucune rupture de style et il y a un suspense à le temps, on va y venir. Mais quel fut le point de départ de cette entreprise à deux?
D'abord, effectivement, l'idée que si on voulait dire des choses et imaginer ce qui pourrait se passer à partir des fake news, il y a les fake news du quotidien et puis il y a des fake news politiques beaucoup plus puissants qui visent à déstabiliser sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la vie quotidienne des États. Et c'est plutôt de cela dont on parle, nous, avec l'idée qu'on peut aller aujourd'hui, on a les moyens d'aller jusqu'à quasiment un coup d'État, fomenter un coup d'État légal à partir d'un autre État avec les services de renseignement, etc. etc. C'est évidemment ce qu'on a imaginé dans le livre. Mais on est parti de l'idée que finalement ces fake news nous envahissent au quotidien et qu'on a de plus en plus de mal à pouvoir détecter le vrai du faux, que ça devient très compliqué. C'est d'ailleurs compliqué pour notre métier de journaliste.
Complètement, oui.
C'est encore plus compliqué pour ceux qui sont acteurs de la vie politique et de la vie sociale.
Absolument. Il y a une étude qui est sortie hier, dont on parlera tout à l'heure, simplement Michel Cotta, qui souligne que les jeunes sont moins réceptifs. J'aurais pensé le contraire, aux fake news, que les plus âgés qui relaient facilement sur Facebook notamment.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit esprit critique.
C'est pas normal, parce qu'au fond, les jeunes sont nés avec les fake news. Alors,
oui.
Ils arrivent à trier peut-être plus facilement le vrai du faux. Mais alors, donc sur ce point de départ qui est les fake news maintenant entrent dans notre vie politique, elles entrent dans notre vie économique, elles entrent partout. On s'est dit comment, à la fois, on ne va pas faire un essai sur les fake news.
Oui, puis ça va trop vite, cela dit, hein, il y en a tous les jours.
tandis qu'un roman, on a trouvé que c'était à la fois plus ludique, sûrement, et peut-être plus démonstratif, en tout cas.
Mais un roman, c'est fake par rapport à la réalité.
On peut dire ça.
Oui, c'est
pas mal.
Bonne réponse, bonne question.
À ceci près que précisément, nous, c'est d'ailleurs, c'est une bonne remarque, parce que quand on a écrit le livre l'hiver dernier, en fait, on a commencé en septembre 2017 à travailler sur ce projet, à écrire le synopsis du roman qu'on voulait écrire, et puis on l'a écrit ensemble du mois de janvier au mois de juillet, et corrigé peu après. Donc c'est vraiment au cœur de l'hiver dernier. Et comme on situe, pour que ce soit évidemment beaucoup plus attractif et romancé, on situe notre propos dans la France politique et sociale d'aujourd'hui, avec des personnages qu'on peut reconnaître, qui sont des personnages à clé, mais qui en même temps sont des personnages qui sont multiples, qui ne sont pas que la copie conforme de tel ou tel de la vie politique d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on s'est dit, on raconte une histoire qui sera sans doute considéré par certains comme peu vraisemblable, parce que nous, on va très très loin
sauf
l'idée
que...
du fake news.
Ouais, hein. Sauf que bravo, parce que vous avez eu du flair.
Hein. Alors, effectivement, on a vu ce qui s'est passé depuis ces mois, six mois, et on s'est dit, mais c'est très étrange, parce qu'on est en train d'être
rattrapé par la réalité.
C'était même notre, à un moment donné, c'était même notre terreur.
Il faut juste que je pose...
Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, est-ce que la réalité...
Il va vous rattraper complètement.
Compte tenu de ce qu'on a écrit, pas encore.
Je pose juste les faits, parce que fake news, on en a parlé, ça c'est le titre générique. L'idée, c'est qu'un vous avez en scène l'acteur principal, qui est un jeune président élu de 42 ans, qui voit son pouvoir vaciller et remis en cause par une fake news publiée par Le Canard Enchaîné, parce qu'il y a aussi des éléments de la réalité qui s'entrechoquent. Vous citez Le Figaro, Le Canard Enchaîné, enfin voilà, donc on est aussi dans notre réalité. Il y a une spirale du complot, du crime, avec des meurtres quand même, quasiment en série, et qui font froid dans le dos, sur un terrain de contestation populaire. C'est là où vous avez senti un petit peu les choses, parce que ce président élu, qui ressemble quand même fortement à Emmanuel Macron, a été élu dans la grâce et contesté quelques mois après son élection.
Et très rapidement. Vite, non, là aussi, puisque nous avons placé notre action un an, enfin, on a dit qu'un an après... La première année avait été formidable, mais que la deuxième année a commencé à se gâcher avant même qu'elle se gâche vraiment.
Oui.
Mais évidemment.
Ça, c'est votre expérience politique. Vous avez dit peut-être, Michel Cotter, Robert Damien, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'un jeune président qui prétend révolutionner les choses. Bon, non, c'est peut-être un peu de la littérature.
Oui, c'est les deux à la fois, parce que c'est vrai que l'interrogation, on attendait tellement lorsque Emmanuel Macron a été élu, on a tellement du président de la République que, effectivement, on prévoyait qu'il y aurait une petite baisse de pression après.
Oui.
Mais enfin, Emmanuel Macron n'est pas vraiment notre héros. Il y a beaucoup de présidents de la République qui se sentent sûrement sur la même longueur d'onde que ce personnage, qui s'appelle d'un autre nom, naturellement, dans notre livre, et qui est un peu plus âgé qu'Emmanuel Macron.
Oui, il a 42 ans. Il a 40, et il a par contre une jeune femme et deux filles et de 12 filles. Et 10 ans.
Absolument. Et puis évidemment, il y a l'opposition en place, on va en parler. Le président du Sénat, un journaliste qui se fait assassiner avec le complot, avec des attentats qui ne sont pas résolus. Voilà pourquoi aussi la colère gronde. Fake News, c'est le roman politique qui nous réunit aujourd'hui et qui puise, hélas, à certains égards dans notre réalité. Thriller politique vraiment très très bien écrit et ficelé. Michel Cotard, Robert Namias, c'est un plaisir de lecture et au-delà, surtout, ça interroge notre société. On fait le tour de ce sujet. Juste après la pause, on y revient. Avec vos questions, vos réactions, n'hésitez pas.
Au 39-21. Le tour de la question sur les fake news avec Robert Namias et Michel Cotard.
Oui, et Wendy Bouchard.
En quoi ces rumeurs arbitrent aujourd'hui la politique? On vous a demandé, et on vous donnera le résultat de ce petit sondage, si vous pensez vous aussi avoir été victime de fake news, parce qu'il ne concerne pas simplement les puissants, évidemment c'est ceux que les opposants ont envie de faire tomber avec ces rumeurs, mais les citoyens dans leur ensemble sont concernés. Michel Cotard et Robert Namias sont avec nous car ils ont publié hier, c'est tout frais, chez Robert Laffont, ce roman politique d'anticipation quelque part. Michel Cotard et Robert Namias, deux grandes voix d'Europe 1, Fake News, avec en préambule, en point de départ de ce roman, un article qui fait mal, très mal, au président de la République dans votre livre. Il s'appelle François Berlot, il a 42 ans. Un article du Canard Enchaîné qui prétend que la campagne a été financée par les Iraniens. Financement pas propre du tout, rumeurs lancées et déflagration à l'Élysée. Julie, je vous laisse lire un tout petit extrait.
Extrait du livre. Financement illégal, le président à la solde des Iraniens. Les 20 heures de TF1 et de France 2 n'omirent aucun des détails publiés à la une du Canard Enchaîné. Il ne s'agissait plus cette fois de quelques centaines de milliers d'auditeurs ou de téléspectateurs. Avec les 20 heures, c'était d'un coup la France entière qui prenait de plein fouet ces révélations. De la dynamite qui pouvait vous exploser à la figure à tout moment.
C'est ça le problème d'une fake news et des fake news en particulier, Robert Namias, c'est la manière dont elle se propage comme une traînée de poudre.
Oui, parce que dans notre livre, évidemment, c'est le début d'une histoire qui est la déstabilisation d'un État par un autre État. On laissera les auditeurs découvrir la suite du livre. Mais c'est vrai qu'on est quand même très frappé aujourd'hui par le fait que le moindre fait, publié en effet par Le Canard Enchaîné en général, mais ça peut être par un autre magazine,
ou par n'importe quel journal,
on l'a vu avec d'autres affaires. Et une fois que c'est parti, c'est terrible parce que c'est une vraie déflagration, c'est le mot qui convient. C'est le titre de notre premier chapitre d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est une déflagration, quel que soit le niveau et la hauteur et la puissance du fait. Et au fond, avant même qu'on ait pris, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'avant même qu'on ait pris la précaution de vérifier vraiment, parce que là par exemple, On met en scène dans ce premier chapitre, effectivement, cette déflagration, le président de la République qui prend dans la figure ce papier du canard enchaîné, lui-même dément d'ailleurs immédiatement par un communiqué de l'Élysée, mais il le prend dans la figure. Et on voit bien que les chaînes d'infos, là je mets en cause un peu les journalistes, mais les chaînes d'infos, les grandes chaînes
tout
généralistes,
le
les 20 heures, avant même, au fond, entre la publication du canard, ça arrive le mardi soir sur le bureau des journalistes,
oui,
hein,
oui.
la veille du mercredi, le canard enchaîné, et ça arrive vers 19h, en général, 18h-19h. Et si l'information est énorme, ce qui est le cas dans notre roman, évidemment, eh bien, elle est immédiatement dans les 20 heures. Vous avez une heure pour vérifier. Très sincèrement, on ne vérifie pas.
Oui.
On prend le soin de dire « selon le canard enchaîné ». Mais en fait, c'est parti. On oublie le « selon canard enchaîné » et l'affaire est partie.
Et alors, le problème, c'est qu'il y a aussi l'idée, pardon, la date de Michel Cotta, de « il n'y a pas de fumée sans feu » d'une rumeur.
Oui,
hein.
Mais bien sûr, d'ailleurs, quelles que soient les... On voit aussi la faiblesse des démentis par rapport à ce qui est annoncé d'une façon générale. Les démentis prennent deux lignes dans les journaux, tandis que toutes les informations prennent des pages et des pages. Mais ce qui est nouveau dans l'histoire des fake news quand même, c'est qu'il y a toujours eu des erreurs d'information, il y a toujours eu de mauvaises informations, de fausses informations. Par exemple, on se rappelle pendant la libération de la Roumanie, l'affaire de Timișoara, où on a annoncé qu'il y avait un charnier alors qu'il n'y avait pas de charnier. Mais Qu'est-ce qui a changé? C'est que, un, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. C'est-à-dire que...
On avait le temps de vérifier un peu plus.
Exactement, on a vérifié et enlevé l'information.
Ouais.
Mais avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, une telle affaire aurait été immédiatement répercutée sur des millions, des centaines de millions dans le monde.
Là, si j'ose dire, vous mettez aussi en cause, et c'est peut-être un fait, les journalistes qui sont aussi complices, parce que le canard enchaîné est le détonateur quand même de cette fausse rumeur. C'est-à-dire que nous sommes aussi complices d'un système qui nous tue et qui alimente la défiance vis-à-vis des journalistes.
Ceci étant, c'est encore plus compliqué, parce que c'est une fausse rumeur, mais qui est bâtie comme une vraie,
c'est ça,
comme une réalité.
Donc, les journalistes sont instrumentalisés.
C'est dans le démontage de ce fake news qui est parfait, dans lequel Robert a excellé sur les comptes en banque et le décryptage des comptes en banque.
C'est vous, ces chapitres-là, hein, bravo.
c'est vrai que maintenant, c'est une dimension tout à fait particulière. Alors, on reçoit, il y a des petits fake news et puis des grands.
Regardez, vous avez sous les yeux tous, Julie, Robert et Michel, une lettre en tête du ministère de l'Intérieur, une circulaire signée par Christophe Castaner qui a été diffusée sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Objet, mise en œuvre des procédures de saisie des armes de catégorie B, C et D pour tous les gilets jaunes notamment qui en posséderaient dans un climat d'insurrection, de pré-insurrection. Cette circulaire a fait le tour. Le ministre a été obligé de la poster en disant que c'était un faux. Info qui n'est pas difficile à faire, mais qui est très, très bien fait.
Les faux, maintenant, sont extrêmement bien faits. La règle journaliste de base sur une fake,
c'est d'appeler le ministère.
Petite fake, entre guillemets.
Oui.
C'est évidemment d'appeler le ministre de l'Intérieur ou le ministère ou son porte-parole et puis de vérifier l'information.
Ce que nous
essayons de dire et de montrer, et imaginant un processus très déstabilisateur qui va jusqu'à une forme de coup d'État légal, c'est qu'il y a des fake news qui aujourd'hui sont des montages imparables et que, notamment, c'est le projet de notre livre, on a vu qu'avec les services de renseignement, les moyens informatiques que possèdent ces services, et là, je parle des services de renseignement américains, de services de renseignement russes, de services de renseignement iraniens, israéliens, français également, etc. Il y a moyen de monter des opérations de déstabilisation économique, politique ou sociale qui sont relativement imparables. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre projet, le canard enchaîné a plus ou moins vérifié, mais a plutôt vérifié ces informations. Et les vérifiants, eh bien, il a trouvé qu'elles étaient exactes, car, en fait, le montage est encore plus compliqué, plus subtil, au point que le canard n'a pas pu démonter le montage. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on est arrivé à un tel point de sophistication, à un niveau très élevé. On ne parle pas même des petites fake news, genre celles que vous venez d'évoquer concernant le ministère de l'Intérieur.
Non, on parle de fake news qui font tomber et qui peuvent faire tomber un chef d'État.
Elles deviennent indémontables, sauf à ce qu'il y ait une intervention humaine qui la dénonce. Ce qui a été le cas avec Snowden, avec Assange, etc.
C'est ça.
S'il n'y a pas d'intervention humaine, on ne la voit pas venir.
Alors évidemment, ce qu'on voulait conserver quand même dans ce... dans cette démonstration, qui est importante et qui est même capitale, qui explique qu'on ait fait ce livre. Mais ce qu'on voulait conserver, c'est justement donner un aspect ludique, l'aspect du roman, avec la liberté du roman, pour illustrer précisément avec des personnages qui sont tous plutôt... Il y en a plutôt très sympathiques, d'autres qui sont...
On se prend d'empathie pour un certain nombre d'entre eux. Oui.
Et avec, au milieu, justement, un duo de journalistes qui fait très très bien son boulot, mais qui, lui aussi, et même en faisant bien son boulot, est amené
à être
complètement manipulé.
Et un journaliste dont vous imaginez qu'il est aussi assassiné, il faut dire les choses.
Être manipulé de bonne foi, je veux dire. C'est ça qu'on voulait démontrer, qu'il n'y a pas seulement un petit fake news comme cette lettre. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un dans une officine qui a photographié un papier. Bon,
c'est qu'il y a aussi une entreprise extrêmement élaborée. Vous parliez de comptes en banque, justement, avec des
entreprises très, très élaborées, très compliquées. Et dans lequel, même avec la force des rédacteurs et des reporters d'Europe, on peut de temps en temps se laisser avoir.
Fake news avec Michel Cotta, avec Robert Namias, au cœur de l'actualité, au cœur de leur roman publié hier chez Robert Laffont. Fake news dévastatrices qui peuvent vicier un scrutin, on va y revenir. Comment les entourages peuvent veiller, gérer aujourd'hui ce problème? N'hésitez pas à questionner, à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Je donnerai un certain nombre de vos témoignages. Avec Julie, on vous attend jusqu'à 10h sur Europe.
Ils ont écrit ensemble un roman intitulé Fake News, paru chez Robert Laffont. Nous recevons ce matin Michel Cotta et Robert Namias. Et nous avons un tweet d'un auditeur qui nous donne sa définition des fake news, en fait. Quand on parle de fake news, ne s'agit-il pas plutôt d'informations ne provenant pas de vrais journalistes?
Hélas, on peut prouver un peu le contraire, Robert Namias.
C'est plus compliqué.
C'est plus compliqué que ça, justement.
Ce qui est plus compliqué, c'est que des nouvelles qui, peut-être, effectivement, émanent d'officines ou de gens extérieurs sont prises en considération avec intérêt et réaffirmées, relégitimées, avec tout ce qu'il faut de détection, de repérage, on fait attention, mais justement, les fake news sont encore plus importants et encore moins facilement
détectables.
On peut difficilement les percer à jour.
Absolument.
C'est ça qui est important.
En tout cas, vous avez choisi la version, le terme anglo-saxon, fake news, parce qu'on pourrait le traduire aussi par rumeur, mais fake news, ça sonne.
D'autres les appellent les infox, mais moi je trouve
les
pas
infox,
ça.
Les infox,
oui. Info, fake intox, news, bon voilà, le terme est maintenant devenu un terme tout à fait courant. Mais ce qui est, encore une fois, il y a la fake news du quotidien qui est émerge sur un réseau social à partir de quelqu'un qui veut mettre sur la place publique des fausses rumeurs pour créer de l'agitation de toute nature, etc. Et puis, il y a les entreprises de déstabilisation organisées, par exemple, dans les services de renseignement russes. Vous avez une cellule qui s'appelle APT-28, qui est officiellement une cellule dépendant de la défense et qui organise et participe à la cyberguerre. Parce que aujourd'hui,
avec des salariés,
s'il doit y avoir
des jeunes rémunérés,
une troisième, voire une quatrième, je ne sais plus très bien où on en est avec le terrorisme, peut-être que le terrorisme est la troisième guerre mondiale. Donc, s'il doit y avoir, en tous les cas, la prochaine vraie guerre qui peut faire des centaines de millions de morts, que ce soit par le biais d'interventions informatiques sur les réseaux chimiques, sur les réseaux de santé, sur les centrales nucléaires, etc. Ça se fait à travers des cellules parfaitement organisées. Et on connaît les cellules russes. Il y a des cellules à la CIA. Il y en a vraisemblablement dans tous les grands services de renseignement de tous les grands pays.
Romer Damias, parce que ce sont des jeunes, par exemple, qui sont payés $400 par mois pour ce qu'on appelle cybersoldats de Poutine, qui créent des faux profils en ligne et qui propagent une série de fake news. Enfin, ils sont vraiment payés pour ça. Ce qui amène Jean-Seb Desmarais sur Twitter, #Europe1, à nous demander si l'utilisation de fake news n'est pas devenue aujourd'hui une arme politique, géopolitique, menée par des puissances étrangères à travers leurs nouveaux médias.
Mais oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on a
voulu montrer très bien.
C'est le projet de notre livre. Il y a effectivement une façon. On a vécu au fond des moments où l'Amérique du Nord voulait déstabiliser des régimes d'Amérique du Sud. Oui. Ils l'ont fait avec des commandos, avec des troupes. Et bon, là, au fond, ils peuvent se passer de l'intervention de troupes pour essayer de renverser tel ou tel régime. Alors, quand c'est un quand ça se passe entre les États-Unis et la Russie, évidemment, ce sont des fake news considérables, mais si on veut affaiblir l'Europe ou affaiblir tel ou tel pays français, tel ou tel pays en Europe, c'est relativement facile.
Facile, ouais.
Et ça qui fait, ça fait froid dans le dos.
Et ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des
fake news. Tout au long
news,
de notre écriture, on se faisait peur à nous-mêmes, si vous voulez, résident bon Dieu, mais ça peut bien se passer.
C'est très perturbant. Alors, quand on regarde ça au niveau citoyen individuel, Christophe réagit, par exemple, et nous dit peut-être qu'une solution contre les fake news serait que chaque personne inscrite sur un réseau social soit obligée d'afficher son identité réelle. Donc là, on serait par exemple dans le cadre de fake news diffusées par les Gilets jaunes. Voilà, plus circonscrit.
Il y a un vrai problème de l'anonymat. C'est un des problèmes majeurs des réseaux sociaux qui d'ailleurs est soulevé par une bonne partie de ceux qui sont sur ces réseaux sociaux en toute bonne foi, parce que ce sont des réseaux qui apportent énormément de choses. C'est très utile, c'est un moyen de communication sur lequel on ne reviendra pas de toute façon, on ne peut pas y revenir matériellement. Et puis c'est un réseau de création de liens sociaux absolument indispensable.
Oui, sauf qu'on a le retweet facile et parfois on retweet n'importe quoi.
Facebook ou Instagram ou d'autres. La vérité, c'est qu'effectivement, par contre, ça permet effectivement de s'immiscer à travers un anonymat qui est très important, si c'était le fait de quelques-uns. Mais malheureusement, je ne sais pour quelle raison. Alors moi, on m'a dit beaucoup, en ce qui concerne les réseaux sociaux, que les gens qui sont sur Twitter, sur Facebook, etc., ont peur d'être à visage découvert, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs entreprises. Ils ne pourraient pas faire le moindre commentaire, parce que s'ils prenaient une position politique, ça pourrait éventuellement... Ce qui sans doute est vrai, d'ailleurs. Oui. Ce qui sans doute est vrai, parce qu'on est quand même dans un monde de flicage épouvantable, hein, donc il faut bien le dire. Hein, donc... Et alors, les réseaux sociaux, qui devraient être un moyen de communication positif, est aussi un moyen de flicage épouvantable. Donc,
et puis, je trouve qu'il y a plus grave aussi dans les réseaux sociaux, c'est que chacun choisit ses interlocuteurs. C'est-à-dire, on n'est pas du tout, quand on est dans un réseau social, on peut très bien ne pas être au courant de ce que disent les autres, ou même des contestations qui sont apportées à telle ou telle fake news. On continue sur son chemin avec ceux qui pensent la même chose que vous. Par conséquent, on n'est pas démenti, on est sûr qu'on a la vérité. Et alors là, vraiment, ça se complique.
On parle du poison de la rumeur, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est comme un poison distillé au compte-gouttes, des interrogations sans objet, mais aussi sans réponse. Ce poison-là est mortel, c'est bien ce qu'ils veulent, dit François Berlot dans votre ouvrage, le président de la République de 40 ans, 42, ils veulent ma peau. Fake news, Michel Cotard, Robert Namias, on poursuit cette exploration dans votre inspiration, qui est aussi une inspiration très, très quotidienne. À tout de suite.
C'est un roman d'anticipation intitulé Fake News, dont on parle jusqu'à 10h, avec les auteurs de ce roman, Michel Cotard et Robert Namias. Le livre vient de paraître chez Robert Laffont, il est sorti hier.
Des fake news qui sont au cœur de nos vies, qui touchent absolument tous les domaines. On parlait de cette circulaire du ministère de l'Intérieur, fausse circulaire, demandant au préfet de saisir toutes les armes en circulation prétendument. Fake news sur le vaccin contre le papillomavirus qui augmenterait le risque de cancer, qui créerait une sclérose en plaques. Les gynécologues sont en colère et ils ont réagi hier dans une tribune du Parisien. Qui fabrique les fake news? À qui servent-elles? À quoi servent-elles? Et comment se propagent-elles? Également, Michel Cotard, Robert Namias. Ce livre est éclairant et aussi évidemment fondé sur votre expérience et sur votre regard de la politique. Vous entrez dans l'entourage aussi, dans les bureaux des politiques, du président du Sénat au président de la République. On est vraiment soufflé par la vérité, par la véracité, parce que vous les connaissez, ces lieux-là.
C'est vrai que nous deux, nous avons beaucoup d'années de réflexion politique, hein, nous deux, si on les additionne. Donc on connaît évidemment les coulisses, mais on ne connaît pas seulement les lieux. Moi, je trouve que les lieux sont très importants dans, dans un roman de ce genre, parce que on a même la couleur, la couleur des fauteuils du président du Sénat. Hein,
on peut vérifier, pas, hein, sur
vraiment, on peut vraiment, tout, on peut vérifier tout.
On a absolument tout vérifié. Bon, alors, la coulisse, c'est bien, mais c'est aussi les rapports réels entre les gens et les autres. Moi, j'ai fait pendant des années des chroniques de politique, mais dans lesquelles les gens me parlaient à moi et par conséquent, on faisait un peu attention à ce qu'ils disaient.
Oui,
tandis qu'on sait qu'entre eux, ils sont beaucoup plus cash qu'on le pense et qu'on le dit. Les altercations sont plus violentes. Les amitiés existent, mais les affrontements C'est pas mon cher ami, vous devriez envisager de faire ça. C'est connard, change de politique.
Oui, voyez. Sauf que votre acteur principal, votre personnage principal, François Berlot, est plutôt novice en la matière. Donc il n'est pas dans ses codes, là, justement.
Justement,
hein, comme celui qui nous gouverne aujourd'hui.
Il n'est pas dans ses codes, mais enfin, quand il lui arrive des choses, il réagit en homme comme tout le monde, donc dans un vocabulaire tout le monde. C'est ça qui est. C'est quand même la réalité des façons dont les hommes politiques s'expriment. Et au fond, le roman est d'une certaine façon plus réel que n'importe quel essai sur les hommes politiques.
Oui, absolument. C'est ce qui vous a plu aussi, d'ailleurs, dans ce travail
d'écriture.
Oui, parce
que ça nous a. Alors, d'abord, c'est vraiment un roman d'anticipation, dont on se dit d'ailleurs qu'une bonne part de ce qui était anticipé est en train de se passer sous nos yeux, mais que la part essentielle, que, encore une fois, on laissera découvrir, fort heureusement, n'est pas arrivée, et relève là quasiment vraiment de la cyberguerre et de ce que peuvent faire des États contre d'autres États. Mais dans le quotidien, c'est vrai que cette fiction nous a permis de mettre en scène ce qui a été, comme le dit Michel, notre expérience d'une vie politique qui est quand même extrêmement violente. Et qui l'a toujours été. Alors là, pour le coup, indépendamment, il y a effectivement la violence qui émerge des réseaux sociaux et du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus... On a l'impression qu'il n'y a plus de surmoi, si vous voulez. Alors, on appelait ça la langue de bois pour ce qui concerne les politiques, voire pour les syndicalistes ou pour tous ceux qui font partie des acteurs de la vie publique. La vérité, c'est que cette violence, elle était déjà très présente, mais que maintenant, elle est quasiment mise à nu. Et nous, on a essayé de la restituer dans le quotidien de tous nos personnages, que ce soit des politiques, des journalistes. Des gens de la vie quotidienne. Enfin, tous ceux qui habitent notre roman sont dans la vie réelle. Et on a essayé d'écrire cette vie réelle.
Et ce qui est manifeste, c'est qu'avant, Michel Cotta, on avait des politiques qui, pour faire tomber leurs parfois anciens camarades de cordée, sortaient des dossiers. Il fallait quand même monter des dossiers, etc. On parlait de ces fameux dossiers qui sortaient du placard. Là, aujourd'hui, il suffit de balancer une rumeur sur le net. Ça a le même effet.
Alors, ça prend il pas faut quand même ajouter à notre... c'est un roman, hein, j'insiste bien, parce que c'est un roman avec des rebondissements.
Oui, avec des crimes, c'est extrêmement violent, donc évidemment, je ne veux pas les oiseaux de mauvaise
augure. Plusieurs personnes, justement, qui sont assassinées, pas de la même façon, d'ailleurs, de façon différente.
Ah oui, non, vous êtes allé vraiment dans le détail.
Ou qui meurent. Et c'est, encore une fois, c'est un roman. Il ne faut surtout pas envisager...
Mais ça alimente ce climat de violence aussi.
Mais... C'est plus vrai que le vrai, quoi.
Absolument, et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui nous prend aussi, et qui nous plonge dans ce suspense de ce roman aussi, conçu comme un thriller, et un peu comme une série policière, hein, une fiction policière. Je sais que vous êtes l'un et l'autre très aficionados de ces séries, hein, et ça se sent aussi dans l'écriture. On se retrouve dans un instant. Pensez-vous avoir déjà été victime de fake news, citoyen? Eh bien, n'hésitez pas à nous le dire. On vous a posé la question sur Facebook, on va vous donner le résultat de cette petite enquête, et on se retrouve dans un instant pour faire le tour de ce sujet jusqu'à 10h sur Europe.
On en vient à nos fake news, c'est le sujet de l'émission jusqu'à 10h, et on a posé une question sur Facebook. Selon vous, pensez-vous avoir été victime de fake news?
Oui, victime collatérale, ne serait-ce.
Voilà. Oui, à 68% quand même. Hein. Alors, quelques témoignages. Charlotte, je vérifie toujours tout, donc je ne pense pas en avoir été victime. C'est tellement monnaie courante que la moindre des choses, c'est de se renseigner avant de partager et d'influencer les autres. Luna nous dit, de la part des grands médias, bien sûr que oui, tout le monde le sait maintenant. Ça, c'est pour nous aussi. Il faut quand même savoir parfois user de bon sens, d'intelligence et faire le tri. Agathe. Et puis Nemo nous dit, il n'y a que ça pour faire de l'audience, c'est une honte.
Le problème des fake news, Michel Cotta et Robert Namias, vous qui placez ce thème au cœur de votre roman d'anticipation politique, c'est qu'il alimente aussi la défiance vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des journalistes. Hein. C'est bien ce qui peut-être aussi vous a énervé et vous a donné envie d'écrire sur le sujet.
Oui, mais parce que honnêtement, encore une fois, le travail de journaliste devrait fondamentalement se différencier précisément de tout ce qui se développe sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le moment est venu, il faut le dire honnêtement d'ailleurs, pour nous tous, de prendre un peu de recul et de réfléchir sur la façon dont on va... Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi encore sur la façon dont on allait fonctionner par rapport à l'immédiateté de l'information et par rapport à ce qui surgit en permanence sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et fondamentalement, la crise majeure des Gilets jaunes, la façon dont finalement les moyens d'information, quels qu'ils soient, pas uniquement les chaînes d'info d'ailleurs, ont été obligés en quelque sorte de se saisir de cette crise avec une extrême rapidité, sans prendre le recul nécessaire, mais ils ne le pouvaient pas. Je ne cherche pas à les excuser, mais c'est parce qu'on n'a pas encore réfléchi aux nouvelles mécaniques pour traiter des informations de cette nature ou des mouvements de cette nature qui surgissent de nulle part.
Et
ce mouvement-là,
que...
des Gilets jaunes, surgissait de nulle part. Comment l'appréhender ? Comment appréhender des leaders ? Quel leader faire parler, etc. Toutes ces questions-là doivent maintenant être posées et mises sur la table.
Mais j'imagine que les politiques se posent exactement les mêmes questions. Aujourd'hui, comment on peut surréagir sur tout ? Est-ce qu'il faut d'abord le faire ? Et est-ce qu'on a l'entourage pour nous prémunir de ça,
oui,
Michel Cotta ?
Oui, la difficulté, là, on voit très bien la difficulté pour les hommes politiques. C'est que, où ils réagissent immédiatement. Et dans ce cas-là, ils surréagissent. Alors donc, ça alimente. Ou ils ne réagissent pas du tout, en se disant, mais enfin... C'est tellement gros, ce que fait d'ailleurs dans le
départ,
livre, c'est ce que fait notre personnage,
oui,
qui commence à dire c'est tellement gros que vraiment personne ne va y croire.
Et
dans ce cas-là, on est aussi finalement rattrapé,
oui,
par le fake news. Alors, si on revoit sous la Ve République, hein, ça a existé, ce genre de fake news.
L'affaire Markovitch, c'est quand même peut-être
Markovitch,
la première
par exemple,
grande fake news.
On le rappelle, oui, pour... les auditeurs, l'affaire Markovitch, c'était une affaire qui mettait en cause l'épouse du futur candidat à la présidence de la République, qui était Georges Pompidou, et qui la mettait en cause très gravement et d'une manière très personnelle, très privée, puisqu'il s'agissait d'une soirée, encore
libertine,
une fois, très
libertine, avec des photomontages.
Voilà. Et le montage était, à l'époque, les photomontages étaient très très rares. Là aussi, on a découvert finalement qu'avec des photos, comme avec des sons d'ailleurs, on pouvait, en coupant certaines phrases, on peut leur faire dire le contraire.
Absolument.
De ce qu'elles disent. Et en mettant, en juxtaposant des photos qui n'ont rien à voir, on peut aussi... Alors,
et aujourd'hui, vous avez des vidéos truquées, on est allé encore plus loin dans la machination.
Hein. Maintenant, avec le recul, effectivement, au bout de 10 ans, les gens font très attention aux photos truquées. C'est pour ça que je me dis que peut-être, dans un avenir assez proche, on saura dégager
des
fake news,
oui,
on saura trouver des parades, mais c'est vrai que ça passe par une réflexion assez approfondie.
Et une vérification drastique
sur notre
tout.
Rôle. Alors, oui, on peut dire que le rôle des journalistes est d'autant plus important, au fond, parce qu'on peut conclure que le rôle des journalistes est d'autant plus important que, justement, ils auront maintenant à trier eux-mêmes entre le vrai et le faux. Donc, il ne faut pas dire que c'est la fin du journalisme.
Au contraire.
Cette explosion des réseaux sociaux. Oui, tout le monde pense que les journalistes, mais ce n'est pas la fin de notre journalisme, en tout cas. Ça doit être le début d'autre chose.
Ça remet les professionnels au cœur du métier.
Avec quand même un bémol, d'ailleurs. C'est que c'est un peu ce qu'on a voulu dire dans notre livre. D'une certaine manière... assez pessimiste, je le reconnais, mais moi je pense que c'est la réalité.
Donc un peu oser... pessimiste, c'est vrai.
Oui, il faut oser la regarder en face. C'est-à-dire que le processus de fake news que nous décrivons et qui conduit à un véritable coup d'État, c'est une manipulation dont sont également victimes les journalistes, les plus sérieux, etc. Parce que ce que nous montrons, c'est qu'à ce niveau de manipulation, il n'y a plus possibilité pour les journalistes, voire pour les hommes politiques, voire pour les services de renseignement, de démonter une fake news et une manipulation de cette
sauf
nature.
Sauf si un donneur d'alerte, à un moment
sauf
donné...
Sauf s'il y a un donneur d'alerte.
Vient exactement dire, voilà ce que j'ai fait, voilà, et j'ai eu le temps de faire ça.
Et si ce donneur d'alerte a le temps de donner son alerte, de rester en vie. Michel Cotta, Robert Namia sont avec nous. Fake news, avec ces domaines qui s'entrechoquent, la politique, la justice, la police, évidemment, les services secrets mobilisés dans ce roman conçu comme un thriller aussi politique, passionnant. Les fake news qui arbitrent aujourd'hui notre vie, hélas, comment s'en défaire. On commence à vous donner quand même quelques clés aussi sur le sujet. À tout de suite sur Europe.
Le tour de la question sur les fake news, ces rumeurs dévastatrices, ces fausses informations, manipulations, intoxications, on en parle avec les deux auteurs du livre Fake News qui vient de sortir chez Robert Laffont. Robert Namias, je vais dire Fabien encore une fois, juste Robert
mais
Namias.
J'assume tout à fait, je suis très fier de Fabien. Donc
ancien compatriote d'Europe 1.
Robert Namias et Michel Cotta.
Deux grandes voix d'Europe 1 avec encore un extrait pour vous de ce roman Fake News. C'est extrait d'un article de Philippe Morel, l'un de vos personnages, qui est patron d'un journal qui s'appelle L'Univers et qui signe un éditorial au Vitriol. Où va la présidence Berlot, du nom du président de 42 ans que vous mettez en scène? Trop de morts hantent désormais cette présidence qui prétendait renverser la table en s'exonérant des codes habituels. Les débuts furent brillants, beaucoup, comme l'auteur de ces lignes, y ont cru. Mais aujourd'hui, au terme de cette deuxième année de mandat, le président se retrouve pieds et poings liés dans la pire des situations. Des meurtres non élucidés, des morts naturelles mais qui ensanglantent l'Élysée plus salement qu'un crime, une crédibilité à l'extérieur qui s'effrite, une impopularité de l'exécutif qui s'approche du point de non-retour, un parti majoritaire qui s'interroge et doute de sa survie. Tous les ingrédients sont réunis pour plonger la France dans une des crises dont elle a le secret.
On l'a écrit,
vous l'avez écrit il y a un an et demi.
L'hiver dernier.
Voilà, donc toute ressemblance avec une situation existante et voilà, est fortuite.
Donc
mais
on se pose des questions sur des questions. L'écriture de la suite, puisque la suite, vous avez vu où elle mène. Encore une fois, on laissera.
On ne peut pas la déflorer, évidemment, parce que c'est taire l'intrigue. Mais on est quand même dans ce que vit aujourd'hui, à certains égards, évidemment, le président Macron, qui a rappelé dans ses voeux il y a quelques jours qu'on peut débattre de tout, mais que débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. Michel Cotard.
Oui, c'est, on voit ça sans arrêt, avec en même temps la conviction qu'ont un certain nombre de gens qui lisent justement, qui lisent leurs dépêches, qui sont en correspondance avec d'autres, la certitude qu'ils ont qu'ils détiennent la vérité. Mmh. Moi, je sais pas si
on l'a
hier,
vu avec
par
les
exemple,
gens, très clairement.
Hier, moi, j'ai été saisi par ce dialogue entre un ministre et une gilet jaune qui croyait vraiment, mais dur comme fer, que c'était des policiers étrangers. Qui venait régler les problèmes des Parisiens et le ministre disait mais non, il n'y a pas de policiers étrangers qui agissent en France. Et on voyait qu'elle n'était pas du tout convaincue.
Qu'elle venait avec sa vérité et
qu'autour,
rien
d'elle, qu'autour d'elle, les gens ne l'étaient pas davantage. Oui. C'est-à-dire, le danger, c'est d'avoir une partie des gens avoir leur vérité et ne jamais entendre la vérité des autres. Oui. Et ça, c'est générateur de crise qui nous inquiète beaucoup d'ailleurs, et qui sera peut-être donc la suite de ce roman, parce qu'il y a quand même, il y aura quand même une suite.
Et parce qu'il y a une suite, bon, nous sommes en train d'y travailler d'ailleurs.
Et à partir du moment où la moitié de la France croit à sa vérité et l'autre moitié à une autre vérité, là, on arrive vers des problèmes très graves. Alors je ne parle même pas du complotisme, par exemple. C'est vrai qu'on est aussi saisi.
Mais qui alimente justement cette dichotomie.
Lorsque vous entendez des gens douter de l'attentat de Strasbourg et de l'attentat de Nice sous prétexte qu'ils ont été inventés par le gouvernement pour faire diversion, on se dit que là, à ce niveau-là, c'est très très difficile aussi de remonter ces courants. Et même on se pose la question de ce que nous faisons, nous, malgré tout ce que peuvent les journalistes, puisqu'on disait tout à l'heure qu'ils peuvent quelque chose.
Oui.
Là, pour le coup, ce sont des intimes convictions fondées sur des fausses nouvelles.
Oui.
Et donc les gens ne démordent pas.
Remettre vraiment
c'est ça,
beaucoup
danger.
De bon sens dans tout cela, alors que l'Élysée a été victime d'une cible. Son compte Twitter a été parodié, récupéré. Le journal de l'Élysée avec un faux logo, etc., qui continue d'alimenter un peu tout cela de manière absurde. Mais Michel Cotard a raison, je pense que vous le tenez aussi, ce discours-là, Robert Namias, de la reconsidération encore du métier de journaliste. On devra combattre les certitudes de certains avec tact, avec délicatesse, pour ne pas qu'on nous reproche justement d'être supérieurs dans le propos. Mais il faudra bien.
En tous les cas, ce qui appartient à ce métier, à mon avis, et ce qui lui appartiendra de plus en plus face aux réseaux sociaux et à tout ce qui émerge des réseaux sociaux, c'est de remettre du rationnel là où nous avons plongé dans un irrationnel total. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui peut inquiéter aussi, c'est que la raison n'est absolument plus entendue. Le plus faible, le plus modeste, le plus simple, le plus vérifiable n'est plus entendu.
Contesté, oui.
Et ce qui, aujourd'hui, est au cœur de la difficulté majeure, c'est non seulement l'incompréhension, non seulement cette haine qui s'est emparée d'une partie de la population à l'égard d'une autre partie, parce que c'est bien la réalité d'aujourd'hui, mais c'est un irrationnel total. Si on n'arrive pas à remettre de la raison au cœur de ce qui se passe en ce moment dans la vie politique, la vie sociale de ce pays, je ne sais pas du tout où on va.
Tome 2, on va au tome 2 des fake news.
Et ce ne sera d'ailleurs pas facile
pour conclure.
Ce sera d'ailleurs pas facile pour les journalistes, parce qu'on voit bien que
remettre à la raison, c'est très bien, mais ça explique aussi qu'une partie des journalistes soit justement, qui essayent de remettre du rationnel, soit remise en cause, et pas peu, hein, par les irrationnels, justement. Parce que les irrationnels reflètent une réalité qui est vraie, mais du coup, on s'aperçoit qu'on peut avoir des problèmes entre journalistes et auditeurs, ou spectateurs, oui, ou participants des différents mouvements.
Merci beaucoup Michel Cotard, Robert Namias. Et pour terminer sur une note souriante pour votre roman qui vraiment se lit avec beaucoup de suspense, vous amuserez, chers amis, lorsque vous l'aurez en main, à savoir qui a écrit quel chapitre. Moi, j'ai commencé à élucider un peu les choses. Il y a notamment une scène, mais chaude, que vous écrivez, vous, ma chère Michel Cotard.
Ah, non, c'est vous qui le dites. Hein,
oui. Ah, bah, c'est vous qui l'écrivez, en tout cas. Hein, c'est pas Robert.
Non, c'est Michel.
Les fake news, c'était...
Je l'ai même légèrement...
Parce qu'on est aussi dans les secrets d'alcool.
Il a trouvé que j'allais trop loin.
C'est
la première fois de ma vie que je me lance.
Voilà.
Non, mais alors, c'est... Quelques pages seulement,
bien sûr. Je plaisantais, mais en tout cas, c'est un roman formidable. Fake News, roman paru hier chez Robert Laffont, qui va vous faire un beau week-end de lecture. Merci beaucoup, Michel Cotard. Merci, Robert Namias.
Merci
à très bientôt,
vous,
sur Europe 1. Et le plastique en question, juste après, ma chère Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.